Bonsoir, bienvenue au Théâtre Jean Villard pour ce cinquième Café Babel que nous présentons accessoirement, exceptionnellement, accessoirement, n'importe quoi, ça commence bien, avec Jean-François Guéret, donc qui représente le Théâtre Jean Villard, lui seul ce soir, et donc moi, Julien Bouffier, directeur de la compagnie ADESO SM Pré, en résidence dans ce théâtre. Luc Bremer, le directeur de cet honorable théâtre, s'excuse de ne pas être avec nous aujourd'hui, mais pour des raisons personnelles, il ne pouvait pas être là. Nous lui adressons un salut amical et s'il nous écoute, mais je ne suis pas sûr que Divergence FM en fait soit diffusée en Allemagne, mais je crois que c'est en pourparler, mais si, oui, on me dit oui à la régie. Donc, parce que évidemment, je vous rappelle que l'émission, le Café Babel, est retransmis en direct sur Divergence FM 93.9 et nous saluons tous les auditeurs. Ce Café Babel est encore introduit et rythmé par le Skeleton Band. Alors, la dernière fois, on n'avait pas le droit de le dire, mais maintenant, on peut le dire. Le Skeleton Band a donc été choisi, sélectionné, labellisé, découverte du Printemps de Bourges 2012. Hein, on est... Voilà. Pas peu fier hein, qu'il soit la bande-son live du Café Babel depuis le début de la saison et l'une des équipes mises en avant du Festival Hybride 2012 avec deux spectacles dont nous parlerons tout à l'heure. Et d'ailleurs, on donnera hein, un peu plus tard un extrait de la prochaine création que nous faisons, la compagnie de SM Pré avec le Skeleton Band Épreuve. Mais alors aujourd'hui, nous aurons presque tous nos chroniqueurs habituels, sauf Michel Raymond. Mais sinon, donc Claudine Moïse, sociolinguiste. Bonjour.
Bonjour.
Nourdine Barra, auteur. Et donc aujourd'hui, on a un petit nouveau, Abdelbaji, rappeur, que nous avions déjà pu entendre plusieurs fois et aussi et surtout au dernier Café Babel où il nous avait fait une reprise de Brassens, de La Mauvaise Réputation.
Et bonsoir à tous.
Bonjour Abdel. Donc voilà. Aujourd'hui, on voulait répondre à la thématique sur les nouveaux langages liés au SMS, MSN, tout ça, qui est en fait qui est une thématique dont parle le spectacle Chatroom, qui est présenté au Théâtre Jean Villard ce soir, jeudi et vendredi. Et justement, une des personnes de l'équipe du spectacle a bien voulu être avec nous ce soir. Jean-François, je te lance la parole et la main.
Bien, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Divergence FM en direct du Café Babel du Théâtre Jean Villard, où se joue ce soir à 20h et pour trois représentations donc le spectacle Chatroom de l'auteur irlandais Enda Walsh, mis en scène par Sylvie de Beckeler, une production du Théâtre de Poche de Bruxelles. À mes côtés donc Mathieu Defour du Théâtre de Poche pour nous en parler. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour.
Il est très exactement 18h05 au Café Babel. Il est 18h05 sur Divergence FM, c'est normal. Nous sommes en direct et c'est l'heure de l'interview. Et si on tchatchait avec l'invité? Jingle. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit tchatcher. J'aurais pu dire chatter, mais au fond, y a-t-il une filiation entre tchatcher et chatter? Ces deux mots sont-ils cousins? Alors, pour apporter un petit éclairage, j'ai envie de me tourner vers Claudine Moïse, puisque nous avons la chance d'avoir une sociolinguiste de renom ici au Café Babel. Donc, Claudine, j'ai envie de vous poser cette question. Claudine, qui par ailleurs a co-dirigé avec Alexandre Duchesne un ouvrage extrêmement percutant et pertinent sur langage, genre et sexualité aux éditions Nota Bene, mais dont nous ne parlerons pas ce soir car ce n'est pas notre sujet. Donc, Claudine, je reprends ma question. Y a-t-il un lien entre tchatcher et chatter?
Alors sans doute, il doit y en avoir.
Merci Claudine. C'est peut-être un petit peu léger pour une sociolinguiste. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer?
Quelle impertinence. Donc je vais essayer quand même de dire deux, trois mots. On le sait, les mots voyagent. Alors on le sait pour le français, vous voyez, souvent les mots sont pris à une langue, et notamment dans les conquêtes. Les Normands, par exemple, quand ils sont venus, donc 800 après Jésus-Christ, ont donné leurs mots comme cric, c'était cric, 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 vague, étrave, auban. Puis après, on a eu les croisades. Et alors, les croisades, après la prise de Jérusalem, il y a eu des mots arabes comme matelas, tasse, massé, carafe. Alors vous pourrez regarder sur le dictionnaire étymologique, vous verrez, hein, c'est vraiment des mots arabes. On ne dirait pas comme ça, mais ou des mots donc normands, vous verrez, vous aurez l'étymologie. À partir du XVe siècle, puis au XVIe siècle, il y a eu les guerres d'Italie. Puis il y a eu des retentissements considérables. On a eu alors des mots un peu plus, guerriers, comme carnage, bataille, bravade, camp, caporal, etc. Et puis il y a les mots du commerce aussi, avec le XIIe, XIIIe siècle, avec douane, avarie, magasin. Puis des mots aussi plus littéraires, voire diplomatiques. Vous connaissez tout ça avec les italianismes, ronsard, du bélé. Alors là, c'est plus joli. On a clair-obscur, coloris, attitude, réussite. Puis l'Angleterre avec Diderot, Montesquieu, les lettres philosophiques. Vous voyez, tout ça, on l'a appris à l'école. Avec des mots comme speaker, verdict, vote aussi. Et puis encore, on revient avec l'Italie, Lamartine, Chateaubriand et tout l'imaginaire romantique avec des mots comme loggia, par exemple. Alors, il y avait une question. Hein, tu me posais une question, Jean-François, entre... Ah oui, tchatché, oui, c'est ça. Non, j'ai pas perdu le fil, donc je reviens. Et l'anglais aussi, hein, inversement, a été influencé par le français. Et on a en anglais aussi des mots d'origine latine, des langues romanes. Et sous la conquête de Guillaume le Conquérant, donc, il y a eu énormément de mots latins qui sont passés en anglais. Par exemple, on a expect, to expect, vous voyez, c'est bien de expectare en latin. Le mot courage à côté de boldness en anglais. Et alors, ce qui est rigolo, je trouve, c'est que ces mots anglais, il y a beaucoup de mots anglais aujourd'hui qui viennent du latin et qui reviennent après en français. Et là, c'est la levée de bouclier. On va dire, oh là là, c'est de l'anglais, c'est plus du français. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'un mot comme challenge en français, challenge, qui veut dire défi. Enfin, en fait, il vient de l'ancien français qui est challenge et ça vient aussi du latin. Donc, est-ce que c'est un mot vraiment anglais ou c'est un mot latin qui était de l'ancien français qui est passé en anglais? Alors, on peut discuter de tout ça comme opportunité, qui vient de opportunitas en français, qui est caractère de ce qui est opportun. Mais en anglais, quand on dit opportunité, ça ne veut pas dire ça. Vous savez, on crie à l'anglicisme, on dit, oh là, c'est... il y a un mot en français pour dire opportunité, c'est l'occasion, la circonstance favorable. Alors, opportunité, c'est du français ou c'est de l'anglais? C'est un anglicisme, c'est un calque. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un mot qui a été pris aussi en québécois, c'est canceller. Alors, canceller, en anglais, ça se dit cancel, donc annuler. Non, j'ai presque fini. Donc, au Québec, on dit canceller pour supprimer. Et puis, est-ce que c'est un mot français? Est-ce que c'est un mot anglais? Et puis, alors, on arrive à tchatcher quand même. Alors, voilà l'histoire. C'est que tchatcher, c'est un mot occitan qui veut dire bavarder, parler. Et c'est un mot qui serait passé en anglais par la cour d'Angleterre. Et il nous revient par chat. Mais vous savez bien que quand deux mots coexistent en français ou dans n'importe quelle langue, la langue n'aime pas, et puis les gens surtout qui parlent ces langues-là n'aiment pas trop garder le doublon. Il faut toujours qu'ils trouvent du sens aux mots. Alors, on trouve un sens ou un sens qu'on veut bien donner. Et les mots se spécialisent. Alors, on va voir chat pour tous les clavardages. Alors, clavardage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais clavardage, ça veut dire chatter en québécois. Hein, ça veut dire tchatcher si on regarde l'occitan, puis c'est tchatcher en francitan du sud. Et clavardage, c'est le mot québécois. Alors, en québécois, il y a plein de petites digressions, hein, si on regarde clavardage, mais aussi épinglette, hein, je vous laisse deviner ce que ça veut dire, remue-ménage, courriel, fin de semaine, parc de stationnement, chien chaud. Tu sais, Jean-François, ce que c'est chien chaud? Ouais, réfléchis un peu, chien chaud.
Chien chaud, non, je ne vois pas.
Bon, ben, la devinesse, lui qui gagne, gagnera un
verre. Hot dog.
Voilà, hot dog. Donc, clavardage, c'est chat. Et puis, sur la toile, donc, on va chatter. Et puis, entre nous, on va tchatcher en face à face. Voilà, pour l'histoire de tchatcher, tchatcher.
Voilà, moralité, si vous rencontrez Claudine Moïse et que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, évitez de lui poser la question. Claudine Moïse, pourriez-vous développer? Donc, avant de commencer cette interview avec Mathieu Defour, je tiens, chers auditeurs, à jouer la carte de la transparence. Oui, jouons franc jeu. Lorsqu'on m'a demandé de faire cette interview au pied levé, donc pour remplacer Luc Bremer, l'animateur vedette du Café Babel, j'ai hésité dans un premier temps. Pourquoi? Eh bien oui, je dois vous l'avouer, je n'ai pas vu le spectacle Chatroom. Et donc vous le comprendrez, parler d'un spectacle que l'on n'a pas encore vu, pardon, n'est pas très aisé. Oui, je dis aisé, vous avez bien entendu. Zézé, car Zézé traduit ici mon désir profond d'être en liaison avec vous, chers auditeurs. Donc j'ai finalement accepté, mais je réalise au moment où je vous parle que je n'aurais peut-être pas dû. Donc au moment de préparer l'émission, je me suis demandé par quel bout aborder ce spectacle donc, que je n'ai pas vu. Allais-je réussir à venir à bout de cette délicate mission ? Afin de ne pas céder à la panique, je repensais à cette phrase de ma mère qui me disait « Tu n'es peut-être pas le premier des petits génies, mais tu n'es pas non plus le dernier des idiots. » Merci maman. Comme je me prenais la tête, une idée m'est venue. Commençons par examiner le titre. Chatroom. Chat. Chat. Rom. Il s'agit peut-être d'un mot valise. Procédons par étapes. Chat. Oui, bien sûr, le chat, le félin, l'animal. Le chat, comme l'expression « appelons un chat ». Bon, jusque-là, tout allait bien, c'était assez facile, j'étais assez fier de ma trouvaille. Ma mère avait bien raison. Poursuivons, Rome. S'agissait-il des Roms, des gens du voyage ? Ce spectacle parle-t-il des chats, des gens du voyage ? Bon, il faut avouer que je n'étais pas très convaincu par la résolution de cette énigme. Je devais explorer une autre piste. Donc, ayant fait depuis ma plus tendre enfance de nombreux séjours linguistiques dans différents pays anglophones, ayant vécu 8 ans à Glasgow, 10 ans à Manchester et 5 ans à San Francisco, dévoré en 3 jours les 3 volumes du Seigneur des Anneaux de Tolkien en version originale, j'ai envisagé le fait que « charom » puisse être une expression, un néologisme anglais. « Chat room ». Donc je me précipite sur mon Minitel pour vérifier cette information, j'ouvre l'application Robert et Collins. « Chat » est placé entre « chasuble » et « chat up ».« Chat » signifie « bavarder ». Avec cet exemple, « What about having a chat in the corridor ?» Traduction, « Et si nous allions bavarder dans le corridor ?» Ce dont ma mère m'a toujours expressément interdit de faire. J'ignore pourquoi, mais là, ce n'est pas notre sujet. Je me tourne donc vers Mathieu Defour, du Théâtre de Poche, pour nous parler du spectacle « Chatroom », qui, je le rappelle, se joue ce soir à 20h au Théâtre Jean Vilar et pour 3 représentations, jusqu'à vendredi. Mathieu Defour, donc, pourriez-vous nous dire ce que signifie ce titre de « Chatroom » ?
Ben oui, effectivement, « Chatroom », ça parle d'un site internet où des personnes ont la possibilité de discuter en ligne. Donc c'est un site de chat, tout simplement. Et
Alors d'où vous est venue l'envie de monter ce spectacle ? Et pourriez-vous nous parler un petit peu du processus ?
Oui, donc en fait, c'est une initiative du directeur artistique du Théâtre de Poche de Bruxelles, Roland Maoden, qui est allé voir ce spectacle en fait, qui existait à Londres, au Théâtre National, justement. Il a complètement craqué sur ce spectacle et il a décidé de le monter en français. De là, tout le processus de la traduction, du casting, etc. Et des répétitions pour une création en janvier 2009 au Théâtre de Poche. Voilà, et depuis, un gros succès, plusieurs tournées grâce au Festival d'Avignon, au Théâtre des Dons, en 2009, justement, en juillet. On en a notre deuxième tournée en France et on en a fait une en Belgique également en 2010-2011. Et on totalise à peu près 200 représentations jusqu'à maintenant.
D'accord. Et de quoi parle donc le spectacle ? Je crois que ce sont 6 adolescents, c'est ça, qui se retrouvent dans un forum de discussion sur Internet, dans les réseaux sociaux, ça parle de tout ça ?
Voilà, tout à fait. Le pitch du spectacle est assez simple et court, parce qu'on ne peut pas révéler grand-chose. Il faut garder la surprise pour les spectateurs. Mais effectivement, c'est 6 adolescents qui se retrouvent sur un site de chat. Et voilà, ils discutent de choses et d'autres. Il y en a qui sont frustrés, il y en a qui sont cool, il y en a qui sont un peu plus faibles. Et très vite, il y a des jeux de manipulation qui vont s'installer entre les personnages. Parce qu'évidemment, on est derrière son ordinateur, derrière un certain anonymat. Du coup, c'est beaucoup plus facile. On se permet beaucoup plus de liberté et de violence aussi, et d'agressivité. Et du coup, il y a des jeux de manipulation qui s'installent. Et certains d'entre eux vont se liguer pour essayer de convaincre le plus faible à commettre un acte irréparable. Et là, je ne dis pas la suite, l'auteur réserve au spectateur une fin assez surprenante.
D'accord, on parle souvent d'Internet et de ces réseaux sociaux comme l'illusion d'une communication totale. Quel a été le parti pris de mise en scène pour rendre compte de cela, si c'est de cela qu'il s'agit ?
Oui, pour le choix de la mise en scène, c'est vrai qu'en fait, du coup, les adolescents, les personnages sont sur scène et font face publique. Et quand ils se parlent, ils ne se regardent pas. Donc c'est comme s'ils étaient derrière leur écran d'ordinateur et qu'ils chattaient et ils parlent devant eux. Donc ça a été le choix de mise en scène. Il y a des carrés lumineux par terre qui permettent de simuler l'espace virtuel dans lequel ils se retrouvent, parce qu'ils peuvent être derrière, ils peuvent être dans leur chambre, dans un cybercafé, à l'école, à la bibliothèque, j'en sais rien, ils peuvent être n'importe où. Donc ça, c'était le choix de mise en scène. Et également, vu que c'est un spectacle qui met en scène des adolescents, il y a beaucoup de musique, c'est très rythmé et c'est un peu cinématographique également.
Et ce spectacle s'adresse-t-il principalement aux adolescents ou bien s'adresse-t-il aussi aux adultes pour comprendre justement cet univers ?
Voilà, exactement. Donc c'est un spectacle tout public qui parle très très fort aux adolescents, évidemment. On a fait énormément de représentations scolaires, donc le succès est garanti auprès d'eux. Mais effectivement, c'est un spectacle tout public parce que c'est une thématique qui intéresse également les adultes. Par exemple, ceux qui ne sont pas nés avec le numérique qui s'interrogent souvent de l'utilisation que font leurs enfants d'Internet. Et donc, bah, ce spectacle propose en tout cas une ouverture au dialogue par rapport à cette thématique.
D'accord. Donc, vous parliez de manipulation autour de ce spectacle. Est-ce que, donc, Chatroom, ce spectacle-là parle du danger que représente Internet pour les jeunes, mais est-ce qu'il propose aussi des avantages aussi que peut présenter Internet et ses réseaux ?
Voilà, il n'y a pas de parti pris. Hein. Effectivement, dans le spectacle, on peut voir que ça peut être dangereux, mais... Je ne peux pas en dire plus, sinon je vais trop en dire sur le spectacle. Mais ça ne montre pas qu'Internet est dangereux, ça ne dit pas que ça.
D'accord. Peut-être un petit mot sur Enda Welsh, qui est un auteur peut-être assez méconnu, d'origine irlandaise.
Je sais. Il est plutôt connu. Nous, on a déjà monté un spectacle au Théâtre de Poche de Bruxelles qui s'appelle Disco Pigs, qui était mis en scène d'ailleurs par Wajdi Mouawad chez nous. Donc nous, c'est un auteur qu'on aime bien. Il est quand même plutôt connu à Londres, en Irlande, dans les pays anglophones. Il est rarement monté en français, je crois qu'on est quasiment les seuls peut-être à avoir monté, je ne sais pas en fait. Mais voilà.
Cette pièce, donc Chatroom, qui est donc une pièce écrite par Enda Welsh, je crois, fait l'objet d'une adaptation cinématographique par un réalisateur, je crois, japonais, qui s'appelle ouais. Hideo Nakata, qui a réalisé entre autres le The Ring.
Oui, exactement. J'ai vu le film, ça n'a pas grand-chose à voir. Après, c'est complètement différent, on est dans le théâtre, donc voilà.
D'accord. Le film a été tourné, je crois, après la création au Théâtre de Poche.
Tout à fait.
Donc, est-ce que Hideo Nakata s'est inspiré de la pièce et du parti pris de Julie de Kerkiller ?
Pas du tout, non, non.
Merci, monsieur. Merci donc, je rappelle que Chatroom, vous pouvez le voir ce soir à 20h, demain également à la même heure et vendredi également à 20h. N'en déplaise à ma mère, je serai ravi d'échanger avec vous, chers auditeurs, des impressions sur ce spectacle dans le corridor du théâtre Jean Villard.
Très bien, merci Jeff. Hybride sera aussi à l'heure belge, hein, puisque Fabrice Murgia, un des prodiges de la scène belge, qui est à Bruxelles d'ailleurs, qui était en résidence jusqu'à présent au Théâtre National de Bruxelles, donc a monté ce spectacle, Le Chagrin des Ogres, que nous présentons au Festival Hybride le 27 et le 28 mars, ici, au Théâtre Jean Villard. Le spectacle de Fabrice, c'est son premier spectacle de Fabrice Murgia, qui depuis en a fait trois autres, et qui est un très jeune metteur en scène, auteur, acteur, qui est un peu un petit prodige, puisque avec ce premier spectacle, il a cassé la baraque, fait le festival de Impatience au Théâtre de l'Odéon, Télérama et le 104, et où il a eu les prix de ça, et depuis son spectacle, ce spectacle-là tourne beaucoup et les suivants. Et donc,
Julien,
nous l'accueillerons pour deux soirées en plus.
Julien, je me permets de tout couper.
Oui.
Est-ce que tu pourrais rappeler ce qu'est le festival hybride, peut-être, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ?
Oui, je pensais y venir. Je pensais y venir, mais je pensais y venir plus tard, en fait. Voilà. Donc je te répondrai à cette question plus tard. Le festival hybride est avant tout un festival transdisciplinaire, c'est-à-dire comment les pratiques artistiques se mêlent dans le théâtre, donc que ce soit la vidéo, la danse, la musique, les arts plastiques. Et depuis quelques années, et en particulier cette année, le festival hybride se réclame ou revendique un théâtre documentaire. C'est-à-dire c'est le théâtre qu'on essaie de défendre. Et ce théâtre documentaire est très visible avec les visuels que nous proposons, qui sont des photos de photoreporters, et en particulier donc Corentin Follen cette année, dont nous discuterons plus tard. Mais j'avais envie, moi, pour ce Café Babel, de faire un petit hommage à Rémi Hochlick, qui était photographe de guerre et qui, à 28 ans, a été tué le 22 février en Syrie, à Homs. alors qui couvrait le siège de cette ville bombardée donc depuis à ce moment-là depuis une vingtaine de jours. Et donc lui et Marie Colvin ont été tués. On a eu nous pas mal de nouvelles aussi parce qu'il y a eu l'histoire avec William Daniels et Edith Bouvier donc qui ont été bloqués là-bas dans la ville et qui ont réussi finalement à sortir. Rémi faisait partie de ces photoreporters que je connaissais, que j'avais rencontré, puisque donc avec les témoins et avec le spectacle Épreuve, dont nous allons vous donner un petit extrait tout à l'heure, on recueille la parole, on interview ces photoreporters sur leur travail. Corentin Follen, l'image du festival, le photographe associé au festival, est un ami très proche de Rémi. Et il y avait un bel hommage qui lui a été rendu par Jean-François Leroy, le patron de Visa pour l'image à Perpignan, que je voulais vous faire entendre.
En 2004, Marc Grousset, qui était le directeur de l'école Icar Photo, attire mon attention en me disant « J'ai un jeune étudiant qui s'appelle Rémi Hochlik, qui est brillantissime, tu devrais regarder ce qu'il fait ». Et donc, effectivement, j'ai été très impressionné, mais bon, si vous voulez, c'était un premier contact comme ça. Et puis, quelques mois plus tard, il y a Noël Kidu, qui à l'époque était grand reporter à l'agence Gamma. Noël Kidu rentre de Haïti en avril ou mai 2004 et me dit « Écoute, j'ai vu arriver un môme. Le môme avait débarqué en Haïti. Il s'était acheté un billet d'avion, il avait débarqué en Haïti, il n'avait aucun contact, il n'avait aucune connaissance, il ne savait pas où il allait ni ce qu'il allait faire. Et Noël l'avait un peu pris sous son aile. Et je dois dire qu'il a fait un travail d'une force en Haïti absolument considérable. Je rappelle qu'il avait 20 ans, donc c'était un môme, et que la maturité de ses photos, la puissance de ses photos était extraordinairement impressionnante. Il avait rapporté une photo absolument incroyable, d'une force et d'une violence inouïe, d'un corps au milieu d'un tas de poubelles qui est en train d'être bouffé par un porc. C'est une des photos les plus violentes que j'ai vues dans mon existence. Et j'avais été frappé qu'un môme de cet âge-là ait le courage de la faire, de la montrer et de l'assumer. Donc on avait projeté ce travail à Visa pour l'image au mois de septembre comme le coup de cœur, la révélation de l'année, le jeune talent extrêmement prometteur. Et puis après, Rémi avait un peu disparu des écrans radars, parce que après le tourbillon qu'il avait connu à Visa pour l'image, où il disait en rigolant qu'il n'y avait pas un magazine qui ne voulait pas bosser avec lui, il a eu un passage à vide, donc il a lancé IP3, il s'est mis à faire du social, de la politique, en France, pour pouvoir bouffer. Et puis l'année dernière, on l'a vu réapparaître sur un plan international en Tunisie, en Égypte, en Libye, où il a fait un boulot extraordinaire. D'ailleurs, il a eu le premier prix General News Stories. La dernière fois que j'ai eu Rémi, je l'ai appelé pour le féliciter pour son World Press. Il m'a dit « Je pars en Syrie, on déjeune à mon retour pour fêter ça, et voilà, on déjeunera pas, quoi. » Moi, je disais toujours que c'était un des très, très grands photojournalistes de demain, et malheureusement, on le verra pas.
Voilà, cet hommage à Rémi Hochlik. Épreuve, donc le spectacle que nous allons créer le 24 mars, la compagnie des Suez Empré et le Skeleton Band avec Vanessa Lyotet et le Skeleton Band, que nous allons créer le 24 mars à l'Antirouille et que nous rejouerons le 29 au Trioletto. Le 29 mars au Trioletto est donc un travail sur les photoreporters. C'est sur une photoreporter issue de pas mal d'interviews qu'on a pu faire, d'articles de journaux et d'un livre qui s'appelle « Sans blessure apparente » qui est un peu le point de départ de notre travail, qui raconte les traumatismes qui ont lieu chez des photographes de guerre ou chez des militaires qui reviennent de conflits et qui sont pas blessés physiquement mais qui dans leur tête... sont complètement détruits. Voilà.
Allez, ça pleut sur le bitume parisien. Des manifs, des manifs. Comment rendre compte? Comment faire mon travail? J'ai peur, agoraphobe? Non, mais tout ce monde dans la rue.
Nous n'avons rien à perdre qu'un monde à gagner.
Me faire accepter, être des leurs, de ceux qui regardent, de ceux qui capturent. Je les vois tous ensemble, à distance. Comment être de leur bande? Comment être une des leurs? Photoreporter, je suis photoreporter.
Occupy Wall Street, occupy Brussels, occupy la bourse, occupy your mom. Occupy Los Endiñados, 99%. Occupy la défense, Paris, France.
La défense, c'est ça. La défense de quoi? La défense de qui? Pour qui?
Occupy l'Elysée, occupy TEPCO, occupy la Solomitol, occupy,
occupy,
occupy l'Elysée,
occupy, occupy,
occupy TEPCO,
occupy,
occupy la bourse,
occupy, occupy. Occupy, occupy. Passe ton foulard, lacrymogène. Quoi? Oui, je suis reporter. Oui, je suis photographe. Oui, monsieur le CRS, je suis photographe. Le frappez pas, il vous a rien fait. Oui, monsieur le CRS, je suis photographe. Je mets mon bras indirect dans le visage. 6 jours d'ITT, je suis journaliste. Je suis photographe. Un coup de matraque sur le front, un autre sur le coude. 4 jours d'ITT, je suis journaliste. Je suis photographe. Un coup de matraque sur mon appareil, putain, mais tu sais combien ça coûte ce matos-là ? C'est nos petits 1 000 euros, merde ! T'as ta carte de presse ? Oui, oui, j'ai ma carte de presse, je travaille pour ActuSoin. Vous avez pas le droit de faire ça, c'est antidémocratique. Ah ouais, j'ai pas le droit de faire ça ? Oui, t'as pas le droit de faire ça, je sais, je suis journaliste. Ta gueule !
Merci le Skeleton Band, merci Vanessa Guiotet pour cet extrait donc d'épreuve. Donc le Festival Hybride, c'est effectivement un festival où donc où il y a du théâtre, où il y a des choses qui ressemblent peut-être des fois plus à de la musique qu'à du théâtre. Et puis c'est avant tout un festival qui travaille avec de nombreux partenaires. Donc on les a cités malgré nous tout à l'heure avec le Théâtre Jean Villard évidemment qui est le principal, je dirais, puisque nous sommes la compagnie est en résidence ici, mais aussi l'Anti-Rouille, hein, pour la soirée d'ouverture, donc où il y aura épreuve. Et ensuite, il y aura le DJ, le grand David, qui mixera jusqu'au début du jour. Et puis, il y a des partenaires qui ne sont pas forcément des théâtres ou des lieux de danse, hein, puisqu'évidemment, il y a Montpellier Danse, le Centre Chorégraphique, La Chapelle, le Trioletto, qui est le lieu donc, du Crous, la Salle 3, l'Université de Montpellier 2. Et puis il y a aussi Kawenga, qui est ce lieu qui travaille sur les territoires numériques. Et avec Kawenga, en fait, on fait un projet un peu fou, qui s'appelle Démocratie culturelle 2.0, puisqu'Hybride, hein, évidemment, on n'a pas appelé Hybride 4, puisque c'est la 4e édition Hybride 2012, pour faire référence aux élections présidentielles, enfin aux élections, hein, puisque on a les législatives juste derrière. Et donc il y a plusieurs spectacles qui parlent de ça. Le spectacle de Roger Bernat, d'ailleurs, qui se jouera à la Chapelle le dimanche 25, où justement Roger Bernat, qui est catalan, nous fait un spectacle où il nous transforme en électeurs, hein, puisqu'on aura des télécommandes où on pourra voter, et donc le théâtre est transformé en grand parlement. Et puis il y a cette aventure démocratie culturelle 2.0, donc qu'on fait. Est-ce que Floriane, donc de Kawenga, tu voudrais nous en parler?
Bon, on peut peut-être déjà commencer par dire que Kawenga et Hybride ont plusieurs points en commun, divergences aussi probablement. Plusieurs points en commun, dont celui de toujours essayer de provoquer des rencontres et d'aller vers des choses toujours nouvelles, d'inventer un petit peu des formes comme ça. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé cette année ensemble d'explorer un nouveau genre de rencontre, un genre un petit peu nouveau, qui pourrait permettre de brouiller un peu les lignes habituelles et qui pourrait aussi susciter un nouveau type d'échange. Donc on parlait tout à l'heure de chatroom, etc. Là, on va essayer justement de pas trop bavarder, même si c'est des espaces qu'on va utiliser justement, puisque l'idée, c'est d'essayer de fabriquer un jeu de rôle, un jeu de simulation, avec l'université aussi, puisqu'on s'est associé aux compétences d'Emmanuel Jacques, qui nous aide beaucoup là, du coup, sur la fabrication d'un scénario et d'un univers.
Mais Jacques est professeur, c'est ça ?
C'est ça, qui est maître de conférence, en fait, dans la filière jeux vidéo qu'elle a montée à Paul Valéry. Et du coup, là, l'idée, ça va être d'utiliser la fiction et le virtuel, justement, pour construire un peu des nouveaux possibles et d'entrer, du coup, dans un jeu de simulation où nous aurons six personnages principaux, six éveilleurs, une bande d'indisciples et puis, bien sûr, tous ceux qui voudront jouer, puisque tout ça va se dérouler à la fois dans des espaces de jeux virtuels pour certains des joueurs et aussi sur réseau social. Donc, vous allez pouvoir aussi, vous, participer et proposer des solutions concrètes pour essayer de faire avancer une démocratie culturelle et des propositions artistiques dans un univers où il n'y a plus de ministère de la culture. Tout ça a été aboli, c'était le XXe siècle peut-être, et on est rentré dans l'ère du ministère des Jeux. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à proposer des choses qui nous intéressent? Est-ce que ça a vraiment du sens? Après tout, on va peut-être finir par décider de ne plus du tout avoir ni de culture, ni de théâtre, ni de photos, etc. Ça, on verra, ça va dépendre de vous et des joueurs. Voilà, donc tout ça, c'est l'idée qui ressort de ça, c'est quand même d'essayer de jouer aussi sur les mêmes mécaniques que le théâtre, c'est-à-dire à un moment d'arriver à brouiller suffisamment les frontières entre le vrai et le faux.
Puisque donc il se passera des choses sur les réseaux sociaux, et en même temps il se passera des choses pendant le festival hybride qui seront des petits indices de cette aventure démocratie culturelle 2.0.
C'est ça, pour essayer de faire avancer cette quête de démocratie culturelle 2.0.
Voilà, qui est finalement pas si présente dans les programmes électoraux de nos candidats. Mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Valériane ?
C'est en cours de construction, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'inventer juste là en ce moment, et il y aura pas mal de surprises, je pense, enfin j'espère en tout cas. Et de toute façon, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'enquête.
Bien. Merci. Donc on est bien en direct sur 93.9 sur Divergence FM au Théâtre Jean Villard pour ce Café Babel. Et justement, est-ce que une de nos chroniqueuses favoris, Claudine, tu pourrais nous parler, puisque tu nous as si bien parlé des chats de manière totalement inopinée, et donc je me risque à te poser une deuxième question. Et toi alors, les SMS
Ah, les SMS, toute une aventure. Donc, après la Belgique, après la Réunion, le Québec, la Suisse, il y a eu le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon s'est lancé dans un vaste projet qui s'appelle SMS for Science, ou for Science. For, vous imaginez hein, là aussi comment on peut l'écrire. Et ce projet, c'est une vaste étude autour des SMS. Une étude qui est menée par des chercheurs de Montpellier et aussi de Grenoble, dont je fais partie. Et c'est un projet en partenariat aussi avec la Maison des sciences de l'homme à Montpellier. Alors dans le cadre de ce projet, on a organisé une collecte de SMS. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être une collecte de SMS auprès d'un grand public. Je vous passe tous les détails techniques, mais l'objectif était de recueillir 50 000 SMS en 2-3 mois. Et des SMS authentiques, c'est-à-dire des SMS que les gens envoyaient, vraiment, et pas qu'ils créaient pour l'occasion. Alors du 15 septembre au 15 décembre 2011, c'est-à-dire hier, on a récolté tous ces SMS. Et vous allez vous demander pourquoi ça ? Ben, c'est encore une lubie de chercheurs, entre autres, oui. Mais comme c'est quand même une pratique commune, hein, on utilise les SMS de façon utilitaire, de façon amicale, ou même amoureuse, ou sexuelle, hein, on en a, ou bien des injures, on a toutes sortes de SMS. Ils facilitent, agrémentent notre quotidien. Alors ce sont des signes de relations sociales, et puis ça nous dit des choses sur notre monde, sur la langue, et donc ça nous intéresse. C'est un lien. Souvent, ils nous bipent. Vous savez, on aime bien être bipé comme ça et on s'attache avec bienveillance aux autres. On se dit, tiens, on nous appelle, je suis là, on est présent pour moi. Et donc ces SMS, pour nous, c'est intéressant parce qu'ils sont cryptés, ils ne sont pas standards, ils sont souvent utilisés avec créativité. Et puis, ils jouent aussi sur les langues, sur plusieurs langues. Alors, la collecte à grande échelle de plusieurs dizaines de milliers de SMS permet donc d'analyser des SMS authentiques et de comprendre pour nous leurs écritures. Alors, le résultat, c'est pour l'instant, on a eu à ce jour quand même 403 donateurs. On a récolté non pas 50 000, mais 93 000 SMS. Puis 80 quand même pour cent des participants avaient moins de 30 ans. La gagnante, parce qu'il y avait des lots aussi, plus on envoyait des SMS par semaine, plus on gagnait, on pouvait gagner des lots. Et la gagnante, donc, vous allez voir, a envoyé au total 8045 SMS en 10 semaines. Si on fait un petit calcul, ça fait à peu près 100 SMS par jour. Donc elle était un peu accro, là, au texto, mais finalement, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc un corpus assez important de SMS. Et pour nous, chercheurs, ça nous intéressait parce qu'on peut, on peut chercher beaucoup de choses autour des SMS, autour de ce phénomène de notre temps et qui est un des éléments de ce qu'on appelle les discours électroniques médiés, donc le mail, le chat, les forums. On étudie, par exemple, comment ils s'écrivent entre l'oral et l'écrit, par exemple, une graphie phonétisée, O, vous savez, un O, ou bien l'écrasement des signes, qu'est-ce que tu fais, écrit K-E-S-T-U-F-E, puisqu'on est à la radio. Il peut y avoir des signes comme MDR, mort de rire, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Et puis aussi, ce qui nous intéresse maintenant, parce qu'il y a des téléphones intelligents où on peut converser, on a de longues conversations avec les SMS. Par exemple, comment on termine une conversation SMS ? Qu'est-ce qu'on dit à la fin ? Qu'est-ce que vous dites ? Alors, est-ce qu'on dit bise, bise avec un Z, bisous, zoubi, je t'embrasse, brasse, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites ? Donc voilà, avoir un peu tout ça. Donc on s'amuse avec ça. Et puis, sans doute parce que les SMS sont de beaux jours devant eux, même si ils sont de moins en moins finalement cryptés avec les téléphones intelligents, ils sont de plus en plus orthographiés. Et on a envoyé aussi des questionnaires. Et autour de ce questionnaire, on avait des réponses, et notamment... un participant qui nous disait, je trouvais ça intéressant, ce qu'apportaient les SMS de nouveau, enfin ce qui était différent. Donc les SMS s'ajoutent aux autres pratiques. C'est pas de l'oral, c'est pas de l'écrit, c'est un moyen différent. Et par exemple, il disait, on peut communiquer sans bruit, immédiatement. On peut envoyer une question qui a peu d'importance, sans ressentir la gêne de déranger l'autre. Par exemple, on peut obtenir rapidement une réponse quand on dit, par exemple, comment fais-tu la génoise à l'île Glantine ? C'est pour ce soir. On peut envoyer des références, adresse, titre d'une œuvre, etc., sans déranger. On peut aussi faire coucou à un vieil ami sans pour autant lui dire ce qu'on pense vraiment de toute l'histoire familiale, de tout ce qui nous lie, de gloser sur la famille, les amis, la carrière, etc. Bon, mais attention aussi, on peut même rompre sans vergogne une relation amoureuse, un peu à la mode rapide de notre monde. Allez, on passe à autre chose, mais attention au cœur malmené et aux émotions zapping.
Merci Claudine. Pour rester sur les SMS, j'avais fait un peu la même demande à Abdel Baji. Qu'est-ce que toi, tu nous ferais sur un SMS ?
On m'a pourtant même vu riche, car je l'étais en larmes. Et mon salaire s'affiche sur un doux sourire hautain. Parme, le charme sévit, séduit la souffrance qui s'induit, traduit les âmes qui s'éclaircissent quand les yeux s'enlisent. Écrire pour le dire, puiser la force de me taire et jeter l'encre. Assouvir les désirs de fuir d'un cancre de l'hypocrisie. Simplicité dans les faits, le monde tourne à l'envers, j'ai le vertige. Dans mes vestiges, je rêve d'être moi-même. Difficile de nos jours de dire je t'aime sans MSN, tout va trop vite. Le temps ne laisse plus de place aux timides. D'antan, l'honneur et la famille se voulaient être des valeurs plus solides. Société soi-disant placide, la pilule est acide. Assis dans nos estimes, on simule un semblant d'esquive. Prévenu, sommes-nous tous libres d'être prisonniers? On provoque, on se plaint, après on pleure, c'est notre opprobre. En face, ils sont organisés, hypnotisés, les consciences se fanent comme l'ivoire dans la savane. Moi je suis fait de tout ce que j'ai fait, il me reste à faire, mais je ne pourrai jamais faire de toi que ce que tu es.
Merci Abdel. Abdelji, donc en direct sur Divergence FM 93.9 au Théâtre Jean Villard pour ce Café Babel. Parmi les artistes qui sont présents au Festival Hybride, il y a le groupe Winter Family. Alors Winter Family, je dis groupe parce que c'est aussi un groupe musical. Winter Family, c'est un groupe de rock qui a décidé à un moment de faire un spectacle. Ils étaient sur on leur a commandé, je crois, une pièce radiophonique sur France Culture, et donc ils sont partis. Elle est israélienne, lui est français, et ils sont partis donc à Jérusalem pour faire une pièce radiophonique. Et puis là-bas, en fait, ils ont eu envie d'aller plus loin et de faire un spectacle de théâtre. Jérusalem Pondurci, c'est un spectacle qu'on présente, hein, bien sûr, évidemment, qu'on présente le samedi 24 mars à 19h et le dimanche 25 mars à 21h à l'Agora, au studio Cunningham. Et donc j'avais envie de vous montrer et de vous faire écouter un extrait d'un précédent album qu'ils ont fait, Winter Family.
Eating an imaginary apple that glows in your hand, learning how to fly, leaving all your troubles far behind, singing now, dancing while walking with goats and sheep, holding your hand, learning how to swim far, leaving all your friends, your families around,
Family, hein, qui seront là le samedi 24 et le dimanche 25 mars pour le Festival Hybride. On est très heureux de les accueillir. C'est un travail très, très particulier où ils ont essayé justement sur ce travail musical empreint de mélancolie, travailler sur la dictature émotionnelle qui est exercée à Jérusalem, enfin en Israël, mais je crois que c'est valable pour tous nos pays. C'est comment les dirigeants finalement s'appuient sur l'émotion et l'émotionnel pour diriger. Voilà. Donc ce spectacle 24 et 25 mars. J'avais envie de donner la parole à Nourdine Barin sur toujours cette question des nouveaux langages et du langage SMS.
Cette fois, c'est davantage un édito. Je ne sais pas si c'est le bon mot, édito, des pensées plutôt, ou en tout cas autre chose qu'un texte de théâtre ou de plus littéraire que je vais livrer. J'avoue que ce thème, les SMS, tout ça, les nouveaux langages, ne m'a pas parlé tout de suite. Bon, et partir raconter cela, ces sentiments, m'a d'abord laissé imaginer un peu mieux ce que peut être l'impulsion de départ d'un Delerme, père ou fils, qui s'apprêterait à faire l'article de ces petits riens de la vie. Voilà, du portable ici en l'occurrence, parce que l'un ou l'autre, sous la douche, aurait entendu le téléphone sonner avec la promesse d'une chanson ou d'un nouveau roman. Enfin voilà, j'ai accueilli ce sujet en moi et finalement j'ai repensé à tous ces vieux sentiments qui ont pu me traverser un jour, ces pensées que tout le monde a pu avoir à l'égard des textos là. Humeur du moment, ce que cela m'évoque très vite finalement, c'est davantage... en quoi ils viennent dans ma vie m'offrir une autre façon de faire exister mes petits ratés, auto-sabotage que je me fais subir de temps à autre. Alors le sentiment dominant qui me vient à l'endroit des SMS reste la méfiance. Même si ce n'est pas tant l'outil texto dont je me méfie mais l'usage que moi j'en fais. Je pense aux nombreuses fois où j'ai pu me sentir mal, véritablement embarrassé de m'être un peu plus compliqué la vie, instantanément, après avoir envoyé un message. Et si cela peut arriver, comme cela, sur un seul envoi de texto, c'est sans doute parce que j'ai fait de celui-ci le dépositaire de mes plus grands enjeux, un canal que je me suis mis peu à peu, sans trop m'en rendre compte, à privilégier. C'est souvent sur un texto que je choisis de tout miser. Je ne sais pas pourquoi vraiment, mais... je me rends compte à quel point je me retrouve souvent dans cette situation, à ce moment grave, solennel, où un texto va partir, qui fait voir rouge et pas vert le bouton envoyé. Et finalement, les coups de fil, aller dire les choses de vive voix, je les réserve, je les ai relégués à ces affaires que je crois pouvoir maîtriser en une conversation dont je me dis que je sortirai plus certainement vainqueur. Très souvent, donc, je me suis surpris à réussir à faire accélérer les battements de mon cœur et ça peut se passer au mieux tout, secrètement, discrètement, sans avoir quitté mon fauteuil, seulement comme cela, comme après un sprint, chez moi, regarder la télé en famille, sans que rien en apparence ne soit venu déranger les autres autour qui ne soupçonnent rien. Alors le cœur bat, regarder le téléphone laissé sur la table, volontairement sur la table et pas dans les mains pour l'éloigner du pouce. Un téléphone avec un message déjà écrit qui attend, un téléphone sur la table... qui devient pour quelqu'un qui s'est souvent fait mal avec comme une arme chargée. Souvent, je me la suis tirée, cette balle dans le pied. Souvent, je me suis senti comme mort dans mon salon et prêt, quand le film reprend, plus disposé que jamais, à mieux comprendre le drame du feuilleton qui jusque-là ne me passionnait pas, qui d'un coup prenait pour moi un sens plus sérieux. Film où il devenait plus important qu'avant mon texto envoyé. Que la fillette coincée dans le fond du puits soit retrouvée par Lassie qui essaie désespérément de se faire comprendre pour amener ses parents jusqu'à elle. Alors forcément, j'ai souvent médité là-dessus, à ce rapport avec le téléphone, à mon emploi du texto, ce qui trahit chez moi, ce qui dit de moi. De façon plus générale, je me demande parfois la raison de tous ces petits ratés dans un élan d'auto-analyse que l'on a tous. Et cela m'a éclairé sur plusieurs choses, à l'égard desquelles j'étais de toute façon dubitatif, sur les raisons d'autant de petites boulettes que je mettais ou que l'on mettait pour moi, sans doute à tort, sur le compte de la maladresse, quand ce n'était pas un acte manqué ou un lapsus que l'on rangeait à mon goût et à mon avantage trop vite dans les pertes et profits. Non, je crois que je suis davantage responsable des choses, c'est ce que me dit l'emploi des textos et comment continuer de s'accorder ces excuses-là encore pour soi quand on sait qu'un texto à écrire vous offre plus de temps que l'on peut s'en offrir en tournant cette fois sa langue dans sa bouche. Mais je ne me plains pas là, rien de trop grave non plus m'est arrivé. Non, en fait, je crois que je suis un peu joueur en réalité. Bon, par exemple, j'ai le numéro d'un ministre, c'est vrai. J'ai vraiment le numéro d'un ministre et que j'ai eu. Voilà, il est passé par la paillade et c'est vrai qu'il est tentant parfois d'envoyer par texto une menace, une insulte, et d'attendre les flics comme dans ces jeux d'enfants où on attendait sa baffe les yeux fermés à vivre les secondes qui peuvent paraître être des minutes. Bon, j'ai le numéro, on peut y jouer à plusieurs, si vous voulez. Voilà, si ça tente quelqu'un dans le parking, je vous donne rendez-vous après. C'est le ministre de l'Outre-mer qui était passé par Montpellier. Il est très sympa, en plus, c'est pas la question. Mais je me dis que si on y joue à plusieurs, les flics arriveront chez chacun par groupe de 3 ou 4 au lieu de 30 seulement. Voilà, juste pour ma gueule. Bon, enfin, si vous voulez y jouer, ouais, ça peut être sympa. Alors, chez moi, c'est vrai, il y a ces textos... qui sont envoyés comme on commet un coup de folie, et je cède souvent à la tentation. Puis je suis auteur, et on n'écrit pas un texto que l'on trouve bon, amoureux de la tournure de la phrase, peu importe si on le trouve naze après, mais dans l'instant fier d'elle, parce qu'elle réunit tout le poids et le sens exact d'un sentiment qui était flou jusque-là, et qui sera validé qu'en l'envoyant. Voilà, envoyer un texto, c'est pour un auteur aussi le publier. Voilà, le publier à compte d'auteur. Merci.
Merci, merci beaucoup Nourdine. Pour finir ce Café Babel, donc en direct hein, sur Divergence FM 93.9 au Théâtre Jean Villard. Et donc je vous rappelle ce soir Chatroom, comme demain et samedi soir à 20h. Donc pour finir, le Skeleton Band avec un autre extrait d'épreuve qui s'appelle...
Ça s'appelle The Tweet Story of Wael Ronim. En fait, ça parle de Wael Ronim, donc, qui est la figure de la révolution égyptienne. C'était un jeune qui travaillait pour Google, qui avait fait le groupe Facebook « Nous sommes tous des Khaled Saïd » et qui avait été mis en prison pendant 12 jours et sous la pression de Google, entre autres, a été libéré. Et puis, il est passé à la télé et son interview à la télé a bouleversé la quasi-totalité de la société égyptienne. Et du coup, c'est ce qui a donné un souffle assez impressionnant au mouvement égyptien. Voilà. Et donc, notre chanson a été composée à partir des tweets, le soir de son interview.
Tweet stories of Wael Ronim, stories of Wael Ronim, in Egypt everyone is crying. Ronim's up is on TV when you cut off the well for 12 days, completely blindfolded. You keep praying to those outside still remember you completely. Story of Wael Ronim, stories of Wael Ronim, in Egypt everyone is crying. Giant monkeys say they have no dream mural with a picture of the Zidane post everywhere. That is possible, we'll never forget them. Ronim is free. Tweet stories of Wael Ronim, stories of Wael Ronim, in Egypt everyone is crying. Egyptian now everywhere crying with or for Wael and Egypt. And back I'm outside tomorrow, million will come to Tahir tomorrow. Things will happen and things will change tomorrow. Might just be the end. Might just be the end.
is crying.
Merci à tous, merci à tout le monde au théâtre, Jean Villard, au Skeleton Band et à tous les chroniqueurs. À bientôt pour le prochain Café Babel et surtout pour le festival hybride avant le prochain Café Babel. Merci.